cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Zodard le 9 novembre 1995.
Cela ne permettrait de dire qu'il a aussi une âme végétative. Oui, ça n'avance pas grand-chose, mais ça fait rien. N'est-ce pas ? Tout à fait d'accord. Les anciens le disaient. Les modernes n'aiment pas beaucoup parce qu'ils n'aiment pas le terme âme. Parce que pour eux, le terme âme est relié à quelque chose de religieux. Mais on pourrait peut-être justement redonner le mot âme en parlant de l'âme du chien, l'âme du chat. Comme ça, on montrerait que l'âme a été saisie philosophiquement et donc a quitté cette nuance, cette modalité religieuse. Parce que l'âme du chat n'est pas religieuse, l'âme du chien non plus. Et pour les anciens, l'âme, c'était tout simplement un principe de vie, donc de vie végétative, de vie biologique. Vous nous avez parlé hier des deux autonomies, l'autonomie biologique et l'autonomie spirituelle. Pouvez-vous préciser encore quelle est la source de ces deux autonomies ? Est-ce la substance ? Quel est le rôle exact de la vie, de la vis generativa? Essayons de préciser les trois degrés d'autonomie, puisqu'au fond, toutes ces questions tournent autour. Et ma raison hier, j'ai constaté l'autonomie qui est sûrement dans le « je suis » l'expérience que j'ai de moi, et de moi dans ce qu'il y a de plus profond, de moi au niveau du « ceci est, je suis ». À l'intérieur du « ceci est », j'ai cette expérience tout à fait capitale du « je suis ». Je suis la réalité la plus parfaite que je puis expérimenter au niveau métaphysique. Là, c'est sûr. Il y a cette intériorité qui me fait découvrir justement mon autonomie. Et c'est intéressant de voir que l'élément d'intériorité fait comprendre l'autonomie. Quand il n'y a pas d'intériorité, il n'y a pas d'autonomie. Vous êtes dans l'extension. Pouvez-vous parler de l'autonomie d'une brique ? Non. Ça fait tout de suite partie d'un tout. Une partie n'a pas d'autonomie, puisqu'elle est relative au tout. C'est avec la vie que commence le problème de l'autonomie, par l'immanence et l'autonomie, et l'intériorité. Alors, vous avez diverses intériorités. Vous avez l'intériorité de la vie végétative, premier degré de vie. Et vous avez cette intériorité, cette immanence de la vie végétative. Ça, c'est évident. C'est ce qui s'exprime par l'organisation de ce tout qui est le vivant. Et le vivant le plus parfait que j'expérimente, c'est évidemment moi. J'expérimente mon organisation vitale dès que j'ai mal aux dents, aux pieds, à la bras, à la tête. Je vois que mon autonomie est blessée. Mon autonomie n'a plus la même perfection. Vous voyez, la limite de mon autonomie se fait sentir de manière très forte. Tout de suite. Et par le fait même, je suis dépendant. Quand vous êtes en pleine santé, vous avez une autonomie beaucoup plus grande au point de vue biologique. Vous n'y pensez pas, du reste. Ce qui signe, il suffit que vous avez un bras en moins pour que, immédiatement, vous repensez quelle sera mon autonomie encore. Et j'essaie, avec un seul bras, de reconquérir toute mon autonomie. L'autonomie des deux bras. Très significatif, ça. Demandez à tous les blessés de la guerre membre en moins, et surtout un bras ou un pied. C'était reconquérir son autonomie par un seul bras. Dès qu'on a été blessé profondément, c'est... Oui, on doit comprendre que on n'est plus le même biologiquement. Et on désire quand même garder son autonomie biologique dans une nouvelle manière d'organiser sa vie végétative, sa vie biologique. Donc ça, c'est... Et on parlait du chiffre biologique dès le moment de la conception. Ce chiffre biologique est le premier moment où je découvre mon autonomie. Je suis un être autre. Et il se développe. Donc, quelle sera la source de cette unité biologique ? Au point de départ, je crois qu'on peut dire que cette source de l'unité biologique vient de la semence. Puisque c'est la conception. L'unité biologique humaine première qu'on constate, la rencontre du spermatozoïde et d'ovule fait cette unité. Et je suis en présence d'un nouveau vivant. Et d'un vivant qui pourra se développer et qui se développera. Alors, on peut dire que quand le vivant est parfaitement autonome biologiquement, qu'il a nécessairement une âme végétative, une âme pour expliquer cette vie. Alors, cette âme, c'est un principe de vie. Au niveau biologique. Je ne peux pas dire plus. Au point de départ, Thomas d'Aquin parle de la vis generativa, qui est au fond quelque chose qui est en dépendance de la vie qu'on a reçue. Du milieu maternel en dépendance du père et en même temps une autonomie d'immanence qui demande de se développer. Alors y a-t-il là des espoirs ? C'est là. Thomas d'Aquin, mais simplement la vie générativa, il suffit pour expliquer cet organisme. Mais c'est la même chose pour un animal. Étant donné sa dépendance à l'égard de l'autre. Mais c'est très possible aussi que cette dépendance à l'égard de l'autre vient tout simplement de l'imperfection. De ce vivant. Mais cette dépendance à l'égard de l'autre me conduit à montrer que son principe de vie immanent demeure très imparfait. Et parce qu'il demeure très imparfait, peut-être que ce qu'on appelle vis generativa suffit. Un être totalement dépendant. Il est totalement dépendant, puisque s'il était séparé de son milieu, il ne vivrait plus. Donc, il n'a pas acquis permet de la guérir. Mais cette source en lui est telle tout de suite, une source qui lui permet de se développer jusqu'au terme. Pour l'animal, c'est net. La vie générative suffit pour le développement ultime. Pour l'homme, c'est différent, puisque l'âme spirituelle ne peut pas venir de cette vie générative. Elle vient d'autre part, elle vient du Créateur. Je vais dire ça dans un jugement de sagesse. À quel moment cette force est-elle donnée? Je n'en sais rien. Je peux dire dès que l'autonomie organique est suffisante, même si on reste dépendant. Je ne crois pas qu'on pourrait dire que l'âme est donnée lorsque le nouveau vivant pourrait vivre seul, indépendant du milieu maternel. Donc, dès le point de départ, l'âme règne sur le corps. Et si l'âme règne sur le corps, ben, elle a son autonomie parfaite au point de vue végétatif. Mais c'est une interrogation que je pose. Je ne peux pas dire plus. Ne concluez pas ça. Que je dis que l'âme n'est donnée qu'à ce moment-là. Je dis, c'est possible. C'est possible. On reste dans l'ordre de l'hypothèse. Ce qui est sûr, c'est que dès le point de départ, c'est un être humain. C'est ce que j'avais dit hier. Et donc, si on détruit cet être nouveau dans le sein de sa mère, on détruit un être humain, puisque tout est ordonné à cela. Et que biologiquement, il y a un ordre nécessaire jusqu'à la naissance. Et c'est peut-être très possible, vous voyez, je mets comme hypothèse, c'est peut-être très possible que l'âme n'est donnée que lorsque le petit embryon, le petit enfant, doit sortir des entrailles de sa mère. À ce moment-là, il a son indépendance parfaite. On verra ça au ciel, hein, parce qu'on n'arrivera jamais à le préciser. On ne peut pas le préciser. Je trouve ça très beau, du reste, pour montrer qu'il y a là, au fond, je dirais, un mystère au plan philosophique. Quelque chose qui demeure caché. Si je prends mysterium dans le sens propre, quelque chose de caché. Que ma raison ne peut pas saisir. Puisque je ne peux saisir l'âme spirituelle qu'à partir de ses effets. Et l'âme végétative, ben, si je regarde l'animal, il n'y a pas création d'une âme par Dieu. Et la vis generativa est son âme. Alors, le développement de l'embryon humain et le développement de l'embryon d'un animal, il faudrait regarder très attentivement de voir à quel moment il y a comme une rupture de ces deux développements. Alors, c'est toujours le cerveau et le développement du cerveau qui fait la rupture. Ça, c'est sûr. Alors, est-ce que ce développement du cerveau exige un principe nouveau? Vous voyez, point d'interrogation. Ou est-ce que c'est au moment où Il y a l'autonomie vitale à partir du sang et du cœur. Point d'interrogation. Je crois qu'il faut poser ces différents points d'interrogation pour voir comment pouvons-nous préciser cette autonomie biologique. On est devant le fait, voire le fondement. C'est sûrement lié à la substance. La procréation est liée à la substance. Seul un être parfait engendre. Et donc, c'est lié à la substance, à l'âme. Comme il y a une seule âme, il n'y a pas l'âme végétative et l'âme spirituelle. C'est donc l'âme humaine. Il faut l'affirmer. Autrement, il n'y aurait plus, au sens fort, de génération humaine. Jusqu'où le pouvoir de la vis generativa des parents va dans le développement de l'embryon. Je pose un point d'interrogation. Le problème de l'avortement et le problème, c'est deux choses différentes. Hein. L'avortement reste criminel du fait qu'on arrête un être humain dans son développement, puisqu'on n'a pas le pouvoir sur la vie humaine. Donc, on agit sur un autre de manière qui dépasse notre pouvoir. Et plus l'être est petit, plus d'une certaine manière, vous voyez, il est petit tant qu'il est dans le sein maternel. Il n'a aucune défense. Et même quand il vient de naître, il n'a aucune défense. Avant que l'être puisse se défendre, il faut du temps. Rappelez-vous, au moment où vous avez pu serrer les dents, et montrer que vous n'étiez pas d'accord et que vous avez pu dire non et que vous avez pu bouder en montrant que vous n'avez pas besoin de l'ordre qui vous était donné. Il faut du temps, ça. Alors là, on touche l'autonomie psychologique. L'autonomie psychologique, évidemment, réclame une âme spirituelle. Parce que vous ne voyez pas cette autonomie psychologique chez l'animal. Elle est propre à l'homme. Tandis que le développement embryonnaire n'est pas propre à l'homme. C'est extraordinaire que si on croit dans le Créateur, ou si on a découvert le Créateur au point de vue philosophique, de voir comment le Créateur a voulu ce parallélisme si étonnant avec l'animal, au point de vue de la vie végétative. Il y a un parallélisme en même temps si semblable et si différent. Alors c'est cette diaphora, cette différence entre le développement de la vie biologique de l'animal et de l'homme qui permettrait de dire là il doit y avoir intervention d'autre chose. Mais même ça, est-ce qu'on peut le dire, puisqu'il provient, ce développement provient d'un homme, d'un père et d'une mère. Jusqu'où va la vis generativa? Laisser à la créature pour être vraiment père et mère. Et ça reste caché. Puisque je pose l'âme spirituelle à partir d'une opération spirituelle. Or, il est bien évident que l'opération spirituelle n'est pas durant tout le temps de la gestation. Aucune même si des réactions instinctives et des réactions sensibles, ce n'est pas le point de vue spirituel. Donc vous ne pouvez pas le savoir. Et je crois que c'est important de sauvegarder, vous voyez, au plan philosophique, le point de vue de la cause seconde qui relève du père et de la mère. L'homme est un animal plus parfait que n'importe quel autre animal. Alors est-ce que sa vie générative serait beaucoup moins imparfaite ? Mais c'est là la question. Il est évident que le point de vue de la sexualité chez l'homme et chez la femme un développement plus grand que chez l'animal. C'est sûr. Alors ce développement plus grand ira, c'est le point de vue psychologique. C'est très vrai, parce qu'il a conscience. Et la conscience augmente toujours le point de vue de la vie, le point de vue de la vie végétative. Vous avez conscience d'avoir faim. L'animal a une conscience instinctive d'avoir faim. Tandis que vous pouvez éduquer la conscience de l'enfant de boire à tel moment, de manger à tel moment, de prendre le biberon à tel moment. Tout ça, c'est artificiel, conventionnel. Et ce qui montre que la vis generativa, ou ce qui montre plus exactement là, que son appétit à l'égard de la nourriture a une souplesse que n'a pas l'animal. Quoique l'animal, on peut le dresser, pour arriver par le dressage, faire que le chien mange à telle heure, et que tout le reste y jeûne. Alors qu'un chien sauvage mange tout le temps, il renifle. Puis dès qu'il a quelque chose, il le prend. Tandis qu'un chien pas bien dressé ne mangera que de la main de son maître. Donc là, il y a aussi une souplesse, ce qui ne relève donc pas directement de l'âme spirituelle. C'est intéressant pour voir ce que c'est que cette autonomie de la vie végétative et la dépendance qu'il y a dans la vie végétative. C'est au fond très délicat et très difficile à préciser. Je crois que ça reste un domaine, vous voyez, souterrain. Ça m'impressionne toujours beaucoup, ça, de voir que la vie commence comme ça, et la sagesse de Dieu l'a voulu comme ça. Donc, autonomie biologique, la vis generativa, et peut-être, à un moment donné, l'âme spirituelle, qui est l'âme végétative. Il n'y a pas trois âmes différentes. Il y a une âme. Et ça, il faut le sauvegarder, parce que philosophiquement, je regarde la personne humaine à une unité substantielle. Tandis que l'embryon, je ne le connais pas. Je l'observe, son développement, mais je ne le connais pas de l'intérieur. Il n'y a pas un cri de l'enfant au moment où l'âme est créée. Non. Tout se passe normalement. Parce que Dieu peut intervenir d'une manière comme créateur avec une douceur plus grande que la nature. Et donc, sans qu'on s'en aperçoive. Ça, c'est regarde l'extérieur. Celui qui est un observateur ne voit pas. Le seul qui pourrait le voir et le constater, c'est le petit enfant, l'embryon. Et comme il ne dit rien, je ne peux pas le savoir. Il y a un silence, vous voyez. C'est très très curieux. Il y a un silence, il y a un secret. Il y a un secret radical de tout homme avec Dieu, au plan biologique, que personne ne sait. Je crois que, enfin du chrétien, je pourrais dire, on le saura dans la vision béatifique. On saura ça dans la vision béatifique. Et avec la résurrection du corps. Dévoileront à ce moment-là et on verra ce que dit le psaume, comment la sagesse de Dieu m'a tissé dès le sein de ma mère. C'est beau de voir que tissé. Donc, autonome. Autonomie psychologique. Ah, alors là, c'est déjà beaucoup plus net. L'autonomie psychologique, on peut la cerner. C'est cette autonomie dont parle Charles Audier. Il y a une autonomie du sentiment du moi au point de vue autonome que je peux avoir. Cette autonomie d'étonnement, disant « Oui, il est fou !» Ou alors c'est un génie mais extraordinaire. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qu'un Sanson? Au fond, vous avez, vous avez la maturité psychologique, vous ne faites rien d'extraordinaire. Vous acceptez des choses dures à porter sans que personne s'en aperçoive. C'est lourd. Mais dès que vous êtes obligé de les manifester tout de suite, et les manifester trop, on dit, ah, pas de maturité psychologique. Mais vous avez une souffrance qui vient et vous êtes obligé de la clamer, de la crier tout le monde entier. Alors on dirait exagération. L'équilibre n'est pas fait. L'équilibre psychologique, c'est de s'adapter parfaitement au milieu dans lequel on est. Alors là, vous passez à travers tout. Vous êtes parfaitement adapté. Vous êtes merveilleusement adapté aux différents milieux. On dira cela parce qu'il est équilibré. Voyez, maturité psychologique. La maturité psychologique, c'est au fond dominer sur notre imagination et notre affectivité passionnelle. Et cette maturité psychologique, c'est un équilibre au niveau affectif. Dominer l'affectivité sur les instincts. Les instincts du boire et du manger. Un homme a une mauvaise humeur quand il a très faim. Sauf s'il a une maturité psychologique parfaite, l'heure du repas passe, ça n'a pas d'importance. Ça n'a aucune importance. Il travaille, il fait son boulot. Tandis qu'au contraire, il meurt de faim, il a très très faim, il devient de très mauvaise humeur, il dit c'est impossible, c'est invraisemblable. Alors il accuse tout le monde, tout le milieu est accusé. C'est le rôle des vertus cardinales de dominer l'affectivité de l'irascible et du concupiscible pour que, de fait, notre maturité psychologique soit ce qu'elle doit être, ce qu'on attend d'elle. Je crois que c'est le propre des vertus. Et il est évident que la prudence va être source de cette autonomie psychologique. Un homme vraiment prudent, qui a en même temps la force, qui a en même temps la tempérance, la force pour dominer les instincts, la justice, respecter les droits de l'homme. Je crois qu'il a une maturité psychologique. L'homme vertueux a une maturité psychologique. Mais la maturité psychologique peut-elle exister sans les vertus? Alors là, c'est un problème d'éducation, ça. De pédagogie et d'éducation. Moi, je ne crois pas. Je crois qu'il n'y a pas de maturité psychologique sans vertu. Et le psychologue qui n'est pas philosophe du tout, s'il n'est pas philosophe du tout et qui reste uniquement au point de vue psychologique, je crois, dira que on peut acquérir parfait, indépendamment des vertus. Alors que moi, je mettrais ça très nettement au niveau des vertus. Et donc, un petit problème des relations de l'éthique et de la psychologie. Parce qu'au fond, c'est ça. Est-ce qu'il peut y avoir une pédagogie, une éducation purement psychologique? Et vous voyez la différence, hein? C'est que l'éthique regarde une finalité et la psychologie ne regarde que le conditionnement. Alors, peut-on prétendre avoir une maturité psychologique uniquement au point de vue du conditionnement? Je dis non. Ce serait purement artistique. Ce ne serait plus une maturité psychologique. Ce ne serait plus une maturité psychologique, une maturité humaine. Alors je crois que la maturité psychologique, pour pouvoir être vraiment une maturité, et donc une autonomie, réclame la vertu. Donc c'est un très gros problème, hein, puisque là ça fait tout de suite deux visions différentes au niveau éducation. Alors, troisième autonomie. Donc, alors, on dirait, vous voyez, au point de vue philosophique, que cette autonomie psychologique. psychologique est acquise grâce à la prudence. C'est la prudence, la vertu de prudence, qui me donne cette autonomie psychologique, qui m'empêche de mettre en colère pour un oui ou un non. Il y a des gens qui se mettent en colère dès qu'on dit autre chose qu'eux. Ça se voit, voilà, on dit, oui, oui, il lui manque une maturité psychologique. Il y a et ainsi de suite, vous voyez. L'immaturité psychologique, ça se voit. Et au fond, c'est parce qu'on n'a pas acquis les vertus. Je crois. Alors, ensuite, l'autonomie métaphysique. Celle-là se fonde sur l'âme. Mais de comprendre que j'existe indépendamment de tous ceux qui sont autour de moi. Que mon exister ne vient pas de mes parents. Mon exister fondamental. La vis generativa qui vient de mes parents explique le devenir. Explique le devenir. Or, le devenir est en vue de l'être. Donné à l'être. La source du devenir n'est pas la source de l'être. Il y a donc une source d'être propre qui est l'âme pour l'homme. L'âme spirituelle qui est en même temps l'âme végétative et qui donne cette unité profonde à l'homme. Le « je suis » saisi profondément, manifeste la présence de mon âme spirituelle. Et me fait comprendre cette autonomie métaphysique. Oui, c'est très important, ça. C'est pour ça que je ne peux pas dire, voyez, parce que ça m'a été répété l'autre jour, que quelqu'un avait dit qu'un petit enfant n'avait pas, on ne pouvait pas parler de la personne du petit enfant, celui qui vient de naître. Ah, j'ai dit non, précisant. Il n'a peut-être pas encore d'autonomie psychologique, ça c'est sûr. L'enfant crie quand il a faim, ce qui est le signe de la non-autonomie psychologique. Hein? Quand il est de mauvaise humeur, il crie. Il empoisonne tout le monde. Et plus on lui dit de se taire, plus il crie. Le signe de la non-autonomie psychologique, qui est irritante. Puisqu'on a affaire à quelque chose qui n'est plus humain, qui est notre pur rang psychologique. Enfant a une autonomie métaphysique. Il est né. Alors là, sûrement, il a une autonomie métaphysique. Parce qu'il a une âme spirituelle. Même si elle ne se manifeste pas. Qu'un handicapé qui ne manifeste pas du tout et qui n'arrive pas à parler, un handicapé profond, je n'ai pas le droit de dire qu'il n'y a pas d'âme. monstre, ça c'est autre chose. Un monstre. À Fribourg, je me souviens, je connaissais bien une sœur qui était une sœur de l'hôpital et qui était à la maternité, qui avait vu ça pendant 30 ans de sa vie. Un beau jour, elle est arrivée affolée. Comme je la connaissais bien, elle m'a tout de suite demandé, elle m'a dit, père, je viens d'assister à quelque chose que je n'ai jamais vu dans ma vie. Une jeune maman, paysanne, 22 ans, qui vient de mettre au monde un monstre tel qu'on ne pouvait pas lui montrer à la mère. Alors, elle était très inquiète parce qu'extérieurement, cette personne paraissait bien paysanne, forte. Et son mari, paysan, philosophiquement, ça m'étonne pas, puisque le développement génétique végétation est commandée uniquement par le point de vue biologique. Le développement de l'éducation est commandé par l'âme. Donc, il est personnel. Et l'âme est créée pour chacun. C'est très curieux, ces chiffres-là. C'est intéressant comme signe, vous voyez. Ce qui montre très bien la différence du devenir biologique, qui a deux moments de devenir biologique. Premier moment, dans le sein maternel. Deuxième moment, commandé par l'âme. Alors, il ne faut pas aller trop loin. Vous savez que c'était Léonard de Vinci qui, quand voulait peindre la Seine et qui cherchait des modèles, avait déclaré qu'à 45 ans, on avait la figure de son âme. C'est pas juste, hein. Ça, c'est l'artiste qui dit ça. Mais c'est assez joli comme réflexion, n'est-ce pas ? Que quand on est, on dépend de l'atavisme. Tiens, il ressemble à qui ? Et c'est toujours très intéressant de voir les ressemblances. Ça intéresse les parents, ça intéresse les amis. Quand on a 45 ans, on a la tête de son âme. Et non pas d'aspect génétique. Hein, alors, pas entièrement, puisqu'il y a toujours le 40%. Allez, 60%. Ceci pour bien faire comprendre le devenir de l'autonomie biologique. Le devenir de l'autonomie psychologique. Développement biologique.